Il paraît que c'est la fête des pères aujourd'hui. Personne ne m'a rien dit ce matin. Il y a eu la fête des mères il y a quelques semaines. Il y a mes deux garçons qui sont là, rien. Bon bref, il y a quelques semaines, il y a eu la fête des mères, mais il faut bien le dire, parfois les parents ne sont pas à la fête. Parce qu'après la présentation des enfants vient l'éducation des enfants. Et ce n'est pas une mince affaire. Et on imagine quand Théa aura 2 ans. Elle a pour l'instant 17 mois. Ça arrive, ça va arriver vite. Et vous savez, on parle des 2 ans terribles, les terrible twos, où l'enfant dit non pour tout, pour manger, pour dormir, pour marcher, et même pour jouer. Parfois, ils disent non à 2 ans, c'est un réflexe. Et ça dure parfois assez longtemps, jusque dans l'adolescence. Et on imagine aussi quand Nathan aura 14 ans, Benoît, quand Nathan aura 14 ans. T'imagines déjà le topo ? Quand il voudra acheter un scooter pour pouvoir rouler et pouvoir imiter son père avec sa moto américaine. Tu l'as toujours, la moto américaine ?
Ouais.
Ça va pas être simple. C'est pas facile, l'éducation des enfants, même ceux qui ont été présentés à l'Église. Ça va pas être facile. Avoir les cernes sous les yeux des jeunes parents, ils en avaient pas aujourd'hui, mais on se dit que ça peut être parfois fatigant. C'est difficile, c'est sûr, mais il s'agit d'un super défi aussi. Un beau défi qui donne du relief à la vie, du ressort à la vie, du suspense.
Wow.
Et même un peu de sens à la vie. L'éducation des enfants est à la fois une responsabilité qui peut sembler lourde, mais aussi une belle aventure, une joie et un défi. Mais que dit la Bible sur l'éducation des enfants ? On sait que la Bible n'est pas un livre de recettes. Comment réussir l'éducation de son enfant en 3 jours ? Elle ne fait pas dans le coaching non plus. Comment être le coach de ses enfants ? Mais la Bible n'est pas non plus déconnectée de toutes les réalités du quotidien. Elle est parole de vie éternelle, certes, mais aussi parole de vie quotidienne. Et il y a dans la parole de Dieu des paroles à prendre pour la relation avec son enfant et peut-être surtout un état d'esprit à acquérir. On a vu tout à l'heure dans l'Ancien Testament, dans le Deutéronome, ce texte, « Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras chez toi ». Dans ta maison, c'est quoi le « en » de « tu en parleras » ? Tu parleras de la foi, tu parleras de Dieu, tu vivras cette foi au quotidien. Tu seras, parent, un passeur de foi au quotidien. Et en matière d'éducation d'enfants ou de l'enfant, il y a dans le livre des Proverbes tout un tas de versets sur la correction de l'enfant. Et un des meilleurs versets, c'est Proverbes 22, 15, qui nous dit « la folie ». Est attaché au cœur de l'enfant. Le bâton de la correction l'en éloignera. Et j'aime bien cette traduction qui explique ce qu'est la folie. C'est la tendance à faire des actions déraisonnables est attachée au cœur de l'enfant. Pourquoi tu manges de la terre ? Le bâton de la... Alors on va laisser tomber le bâton. Qui est un peu typé, qui est ancré à l'époque, mais maintenir le principe de la correction. Dans le sens non pas de frapper pour qu'il ait mal, non pas dans le sens de punir pour faire mal, mais dans le sens de rectifier. La tendance à faire des trucs déraisonnables est attachée à le cœur de l'enfant et tous les parents le savent bien, le voient bien, le constatent bien. Mais aux parents de rectifier le tir. Les parents ne sont pas là simplement pour se faire aimer des enfants. Et souvent, c'est une tentation. Je suis parent, je cherche à me faire aimer de mes enfants. On est là aussi pour rectifier le tir parce que la folie de l'autonomie est attachée au cœur de l'enfant. Et puis, il y a un petit texte dans la lettre que Paul écrit aux chrétiens de Colosse qui est intéressant. Dans Colossiens 3, versets 20-21, « Enfants, obéissez à vos parents en toutes choses, c'est ainsi que vous ferez plaisir au Seigneur. Mais vous, parents, n'exaspérez pas vos enfants pour ne pas les décourager. » On va s'attarder sur ce verset. Il faut bien se rappeler quand même que ces versets ne sortent pas de nulle part. Il faut examiner le contexte. Et ce sont des recommandations pratiques qui viennent après deux chapitres. On est au chapitre 3 là. Deux chapitres, Colossiens 1 et Colossiens 2, où Paul va faire une théologie de la théologie, excusez-moi du mot, mais qui est centrée sur Christ. Et il va dire, par exemple, en Colossiens 2, 10, « Vous avez tout pleinement en Jésus-Christ ». Pendant deux chapitres, Paul, inspiré par Dieu, nous dit « Vous avez tout pleinement en Jésus-Christ, vous êtes bien positionné en Christ, vous êtes bien situé en lui, vous avez une nouvelle identité en lui, et maintenant, parce que vous avez cette nouvelle identité en lui, vous allez pouvoir vivre des relations renouvelées, les uns avec les autres, et parents avec vos enfants ». Et c'est important de se rappeler pour bien comprendre que l'on n'est pas ici dans un cours de morale. Comment être de bons parents chrétiens en trois versets ? Non. C'est un appel à vivre la famille, les relations dans la famille, en fonction de notre nouvelle identité en Christ. Et ça change tout. Alors, nous n'allons pas trop discuter cette première recommandation de Paul qui s'adresse aux enfants et qui leur suggère d'obéir. On a quelques enfants ici. Je ne sais pas comment vous le... Enfants, obéissez à vos parents, car cela est agréable au Seigneur. Boum. Mais la différence ici, c'est qu'il en donne une raison spirituelle, car cela est agréable au Seigneur. Vous savez, l'obéissance aux parents, on la retrouve dans tous les textes, dans toutes les littératures antiques, dans toutes les morales de l'époque, chez les stoïciens par exemple. Mais cette référence au plaisir de Dieu change tout. Enfant, je veux obéir à mes parents parce que je suis un enfant chrétien et je veux le faire parce que je suis chrétien, parce que moi aussi, j'ai cette nouvelle identité en Christ. Et on voit que Paul s'adresse à des enfants chrétiens. Alors, on remarque aussi que Paul ne demande pas aux parents de se faire obéir. Faites-vous obéir par vos enfants. Ou même d'exercer une autorité sur leurs enfants. Comme pour le couple d'ailleurs, chacun a ses responsabilités et ne s'inverse pas automatiquement. La responsabilité de l'un ne doit pas devenir l'exigence de l'autre. Je dis cela pour éviter toute instrumentalisation de la parole de Dieu où quelqu'un dirait, peut-être un parent qui ne sait plus quoi faire, « Tu dois m'obéir, sale gosse !» C'est écrit dans la Bible. C'est comme si un mari disait « Tu dois m'être soumise !» C'est écrit dans la Bible. C'est désastreux ça, les amis. Quand on inverse la responsabilité de l'un et qu'on en fait une exigence. Ce qui est écrit dans la Bible, c'est que le mari doit aimer sa femme et en prendre soin, point final. Ne pas exiger d'elle la soumission ou le traitement préférentiel, comme je le dis souvent. Mais pour les parents, ce que la Bible dit, c'est qu'ils ne doivent pas demander à leur enfant d'obéir. Ça, c'est la responsabilité des enfants. Ils ne doivent pas exiger l'obéissance. Eux, ils doivent les éduquer sans les décourager. C'est ce qui est dit dans Colossiens 3:21, et on revient là. Pour les parents, n'exaspérez pas vos enfants. J'ai lu d'autres traductions. Parents, ne provoquez pas vos enfants. Ne les rendez pas amers, remplis d'amertume. Et la parole de vie dit, parents, n'agacez pas vos enfants. N'agacez pas vos enfants. Sinon, ils vont se décourager. Et donc, il ne s'agit pas d'un appel à la démission, laissez-les grandir tout seuls, les ennuyez pas, ne faites rien, mais d'un appel au dosage. Et c'est tellement important le dosage. Et il semble que les parents, à l'époque, et en particulier les pères, avaient quelques problèmes dans ce domaine du dosage et pouvaient passer du simple exercice de l'autorité à l'autoritarisme, du rôle de chef de famille responsable à celui de despote plus ou moins éclairé. Il faut savoir que selon la loi romaine dite des 12 tables, on accordait au père le droit de vie et de mort sur ses enfants. Et qu'il pouvait, s'il le voulait, les réduire à l'esclavage. Vous avez échappé belle, hein, Simon. Oui. Ça, de temps en temps pour la vaisselle, ça, on pourrait. Mais vous vous rendez compte du pouvoir. Et Paul, inspiré par l'Esprit, dit « Ne découragez pas vos enfants ». On ne s'embarrassait pas de détails à l'époque, et il est probable que certains parents de l'église de Colosse, nouvellement chrétiens, avaient la main lourde par rapport à leurs enfants. Mais parce qu'ils sont nouvellement chrétiens, parce qu'ils sont devenus chrétiens, qu'ils sont nouvellement positionnés en Christ, les choses vont changer. Les choses changent, les choses vont changer. Bon, en parlant de dosage, moi j'ai toujours cette histoire, ouais, non, je ne vais pas la raconter, mais mon père, il travaillait à l'OTAN, et puis on était en contact avec des Américains dans les années 70, et ils aimaient la ceinture, les pères américains, et ils aimaient frapper leur fils avec la ceinture. Mon père, lui, ce n'était pas la ceinture, c'était la règle plate, une grande règle, hein. Mais je n'ai jamais senti un seul coup, parce que je pleurais très fort avant qu'il me la donne, et il n'osait pas le donner. Chez Yvonne, c'était la ceinture, parce que son père était américain. Chez les Français, c'était le fameux martinet. Et une fois, à fin des années 60, j'ai rendu visite à des amis de mes parents, enfin avec mes parents, et on faisait le chahut avec les enfants de cette famille, et la mère est venue avec le martinet. J'ai eu une peur bleue. Parce que c'est un instrument de torture, le martinet. Vous n'utilisez pas ça. C'est terrible, ça. Là, on ne peut pas doser avec le martinet. Le dosage est important. Il ne faut pas décourager les enfants si on ne veut pas qu'ils perdent leur cœur. Parce que c'est ça, décourager, étymologiquement, perdre son cœur. L'objectif du dosage, c'est qu'ils ne se découragent pas. On ne veut pas qu'ils perdent leur cœur, on veut au contraire qu'ils en gagnent. Et on veut même être pour eux des bergers pour leur cœur. C'est-à-dire, et c'est un livre écrit par un Américain qui n'utilisait pas la ceinture, lui, mais qui est pasteur et directeur d'école, et qui, le titre de ce livre, c'est « Un berger pour son cœur ». Un bon livre pour les parents qui s'intéressent pas seulement à comment ils se tiennent à table, à comment... Ah, s'ils vont réussir leur scolarité. Parce que, je vous en prie, chers parents, ne focalisez pas sur la réussite scolaire de vos enfants. Focalisez-vous sur l'état de leur cœur devant Dieu. C'est ça le plus important. On veut encourager nos enfants à, non pas devenir des petits pharisiens, bien sous tout rapport, bons chrétiens, mais qui sont pourris à l'intérieur, qui sont pleins d'amertume ou de révolte ou de haine à l'intérieur. On veut, selon le Seigneur, on voudrait, on espère, on va tout faire pour être des bergers pour leur cœur, c'est-à-dire prendre soin de leur cœur devant Dieu pour qu'ils vivent la grâce de Dieu pleinement. On ne veut pas les décourager, on veut qu'ils prennent du cœur pour Dieu. Et j'en parle toujours avec émotion. Être un berger pour son cœur. Notre désir, c'est que les enfants développent un cœur pour Dieu, et pour cela, il ne faut pas qu'ils le perdent en cours de route, leur cœur, ou en cours d'éducation. Et pour ne pas les décourager, j'ai une petite liste de choses à éviter ou à faire pour ne pas les décourager. Comment ne pas irriter ou décourager vos enfants de tous âges? Et ça s'adresse aux parents, aux grands-parents, aux animateurs des clubs bibliques, à nous tous dans l'Église qui avons des contacts avec les enfants. Surtout aux parents, mais aussi pour nous. Éduquer sans décourager. 10 manières de protéger le cœur de son enfant. 1. Ne pas punir injustement. Parfois, on punit l'enfant pour son confort personnel, parce qu'ils font trop de bruit, parce que etc. Ou parce que sa fierté personnelle a été touchée. Ça arrive souvent, ça. L'enfant le ressent quand il est puni injustement et ressent une injustice. Ne pas multiplier les règles. Il faut s'en tenir, chers amis, à des choses importantes que l'on pourra vérifier, sur lesquelles on pourra tenir à long terme aussi. Trop de règles nuisent à la santé de la famille. Faut pas pinailler sur des dizaines de règles. Il faut s'en tenir, il faut choisir ses combats. Là, on va tenir à deux. Je parle des parents, là. Ne pas menacer sans fin, sans jamais punir. Ne pas multiplier les menaces. Si tu continues, gare à toi. Et rien n'arrive. Et quand on menace d'une correction ou d'une punition, il faut la donner. Si on ne peut pas la donner, il ne faut pas menacer. Les menaces sans résultat minent l'autorité et fatiguent tout le monde. Ne pas changer les règles en fonction des situations. Si parce qu'il y a des invités, les règles changent, alors l'enfant a du mal à saisir la cohérence de son éducation, de l'ensemble. Il se décourage et il perd son cœur. Ne pas réprimander en public. Ou ne pas dire du mal de son enfant quand on le tient par la main. Devant des tiers, devant des amis de l'église, devant des cousins, devant des copains. C'est humiliant pour l'enfant. Ça brise le cœur, surtout quand cette humiliation vient des parents. Et maintenant, quelques conseils dans une forme positive. 1. Comment encourager l'enfant en montrant l'exemple? Albert Schweitzer, je le cite tout le temps, mais disait « Il n'y a que 3 manières d'enseigner les enfants. La première, ou d'éduquer les enfants. La première, c'est par l'exemple. La seconde, c'est par l'exemple. Et la troisième, c'est par l'exemple. Hein. » Par la répétition de l'exemple. Et cette éducation par l'exemple, c'est une éducation indirecte, silencieuse. On ne parle pas directement à l'enfant, mais l'enfant entend ce que l'on dit aux autres et il voit ce que l'on fait. Alors, j'ose raconter un événement de ma jeune parentalité. Quand j'étais un jeune papa encore très très maladroit et très peu mature, j'ai été frappé par ce qu'un pasteur avait dit. Il a dit, et là, ça m'a... boum. La meilleure chose qu'un père puisse faire pour ses enfants, c'est d'aimer leur mère. C'est-à-dire d'aimer sa femme. La meilleure chose qu'un père puisse faire pour ses enfants, c'est d'aimer leur mère. Boum. Et cette phrase m'a corrigé dans le sens à rectifier le tir. Alors, j'étais encore très, très maladroit à ce niveau-là. Mais c'est ça, l'exemple. L'exemple parfait n'existe pas, hein, on le sait. Deuxième chose, enfin, septième chose à faire pour protéger le cœur de l'enfant, leur faire confiance. Alors, c'est en fonction de l'âge de l'enfant et de son développement, mais il faut choisir des occasions pour montrer sa confiance. Oui, j'ai confiance. Et Henri Blocher le disait... L'attitude, qui était doyen de la faculté de Vaux-sur-Seine, l'attitude positive consiste à aller un peu au-delà des preuves données par l'enfant qu'il est digne de confiance. Un petit peu au-delà de ce qu'on considère qu'il est digne de confiance ou ce qui nous a amené à penser qu'il est digne de confiance. Faire confiance pour un peu plus que ce que l'enfant a montré. Ainsi, il y a une sorte d'aspiration. Non pas un nivellement par le bas, mais une aspiration vers le haut. Bon, je ne sais pas s'il peut faire ça, mais je vais lui faire confiance. Et l'enfant le sent qu'on lui fait confiance. Et ça joue tellement sur son désir d'aller plus loin et de se montrer digne de cette confiance, même un petit peu surévaluée, ça le tire vers le haut. Alors, il y aura peut-être pour les parents quelques déceptions de ci, de là. Ouf, là, on a peut-être été... Mais avec les enfants, on est dans le long terme. Et on travaille dans le long terme avec Dieu. Et la confiance se gagne petit à petit. Et puis, évidemment, en 8, aimer d'un amour inconditionnel, c'est aimer sans suggérer que votre amour dépende de son acceptation de la foi. Ça, c'est pour les couples chrétiens. Certainement, pas le dire, je t'aime si tu deviens chrétien, il n'y a personne qui le dira. Mais même pas le suggérer, même pas le penser, ne pas comparer avec d'autres enfants qui, eux, seraient chrétiens. Cet enfant qui est là et qui peut-être est encore dans une période de choix ou de recherche, il est comme tous les êtres humains de ce monde, il a besoin d'un amour inconditionnel de ses parents. Et cet amour inconditionnel va lui permettre de faire justement des choix responsables et personnels et de se positionner personnellement par rapport à Jésus-Christ. Aimer d'un amour inconditionnel, cela veut dire aussi aimer son enfant, même s'il ne réalise pas les rêves que nous avions pour lui ou pour elle. Des rêves ou des projections, vous savez de quoi on parle. On projette sur l'enfant ce que nous aurions voulu faire ou être, et c'est un processus très très connu, inconscient peut-être, mais parfois on en prend conscience. Et quasiment inévitable, on projette toujours, mais il faut en prendre conscience pour pouvoir s'en dégager et dire « attention là, je fais une projection ». Et laisser le champ libre à l'enfant, libre de ses choix. Et le meilleur moyen de se dégager de cette projection, c'est de vivre pleinement cet amour inconditionnel que Dieu nous donne en Jésus-Christ. Neuvièmement, savoir être dans l'encouragement pour ne pas décourager, c'est la meilleure chose à faire. Être dans l'encouragement. Pour lutter contre le découragement, les encourager, leur donner du cœur pour qu'ils puissent prendre leur envol. Bien sûr, les enfants ont besoin d'autorité, de points de repère, de limites, de cadres sur lesquels ils pourront s'appuyer et trouver une certaine sécurité. Et ça, on le découvre encore aujourd'hui, que les cadres ne sont pas limitatifs, mais donnent à chaque enfant une certaine sécurité. Mais pour que l'autorité ne soit pas irritante, pour que le cadre ne soit pas étouffant, il faudra que toute l'atmosphère, soit encourageante. Pour que nos enfants grandissent bien en stature, en sagesse et en grâce, comme Jésus, il faudra qu'ils se sentent aimés pour ce qu'il est, sans condition, qu'ils soient félicités pour ce qu'il fait de bien, qu'ils soient encouragés pour tout ce qu'il pourrait faire encore. L'enfant doit sentir que ses parents sont derrière lui, qu'ils sont même ses premiers fans, ses premiers supporters, ses inconditionnels. Mes parents, ce sont mes inconditionnels. Comme on le dit en espagnol, des aficionados, et aficion, le goût, la passion, l'amateur, l'aficionados, c'est l'amateur fervent. Que les parents, nous puissions être des aficionados, je ne sais pas comment on dit au pluriel, mais des gens qui y croient. Avec ces 9 points là, les parents, si les enfants pourraient être encouragés, nous, on pourrait se sentir découragés avant d'avoir commencé, quoi. Quel est le point qui vous semble le plus difficile, parents ? Être un exemple, tout le temps. Ou peut-être, qu'est-ce que j'ai marqué ? Être tout le temps dans l'encouragement. Ça, c'est dur aussi, quand même. Faire confiance. Et devant cette liste de choses à ne pas faire et à faire, on pourrait être pris d'un grand soupir, non pas un soupir d'aise, mais un soupir de fatigue. La tâche est rude, surtout avec la vie qui continue, avec la vie professionnelle, le stress au quotidien, les problèmes scolaires, les problèmes personnels, les problèmes du couple peut-être, parce que la vie du couple n'est pas un long fleuve tranquille, les problèmes de solitude pour les familles monoparentales, les problèmes de cohérence dans l'éducation pour les familles recomposées. La tâche est difficile et quand le prédicateur du jour en remet une couche, on peut peut-être être saisi d'affolement, voire d'angoisse. Et si je ratais ma famille pour l'éternité ? C'est pourquoi j'ai donné comme titre au 10e point, compter sur la grâce de Dieu. Parce que nous sommes tous, comme je le disais tout à l'heure, en tant que chrétiens bien positionnés en Christ, nous sommes aussi en tant que parents et en tant qu'enfants sous la grâce de Dieu. Cette grâce de Dieu manifestée en Jésus-Christ qui nous a aimés d'une manière inconditionnelle, en mourant sur la croix, en ressuscitant pour une vie nouvelle, renouvelée, mort à notre ancienne vie, sans sens, sans but, sans grâce, renouvelée pour une vie nouvelle. Libérés de la culpabilité et de la peur, cette grâce qui continue à se diffuser depuis lors est parformée comme une sorte de nuée protectrice, un climat favorable, une atmosphère de grâce, une atmosphère qui entoure nos familles, les enfants et les parents. Cela veut dire qu'il ne faut pas être saisi d'angoisse pour ce qu'on a raté ou pour ce qui nous paraît trop difficile à réaliser, vivre sous la grâce. Et venir résolument s'y placer, ça signifie faire confiance en ce Dieu de la grâce qui peut toujours intervenir dans les vies, malgré nos faiblesses de parents et malgré les révoltes d'enfants. Dieu peut passer par-dessus, c'est le sens du mot Pâques, hein, passer par-dessus, pardonner, passer par-dessus. Le Dieu de la Pâque qui passe par-dessus peut intervenir de façon inattendue et imméritée. Et je termine par cette phrase de l'ancien professeur d'éthique à la fac de Vaux-sur-Seine, Robert Somerville, qui était un champion de la grâce et qui savait en parler de la grâce et qui parlait de l'éducation des enfants. Il disait « L'enfant ne juge pas ses parents sur des cas isolés, mais sur un ensemble. Si les parents ont des failles, et c'est toujours le cas, l'enfant est aussi conscient d'une certaine cohérence. » J'aime beaucoup cette phrase qui relâche la pression hein, au niveau de l'éducation. On lit cette phrase et on se dit « Ouf, on a droit à la faille, enfin on a des failles, c'est prévu. On peut être pardonné pour les jours sans dans l'éducation de ses enfants. Ce qui compte, c'est l'ensemble. » Il y a de l'enjeu, mais nous sommes sous la grâce. Parents, éduquez vos enfants sans les décourager, de grâce, et par sa grâce. Amen.